La parole de Dieu est prêchée. Le nom de Jésus est annoncé. Et c'est là ce que nous voulons nous efforcer de faire en cet après-midi aussi. Je vous invite à lire avec moi un texte très court de la Bible, bien sûr. Un texte que nous avons déjà lu mardi soir. Qui était là mardi soir? Voyons. Hein? Alors, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, et au verset 13. Matthieu, chapitre 7, et le verset 13. Voilà, c'est Jésus qui parle ainsi et qui nous dit, voilà, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. » Voilà, alors pour ceux qui étaient là mardi soir, donc, vous vous souvenez, j'espère tout au moins, que nous avons parlé de quoi au fait? De la porte étroite. Et cet après-midi, eh bien, nous allons parler du chemin, puisque Jésus, après avoir fait mention de la porte, parle aussi de ce chemin, en fait de deux chemins. L'un spacieux et l'autre resserré. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ça? Eh bien, ce chemin spacieux, vous voyez, ce chemin large, c'est une vraie autoroute à six voies. Il conduit, nous dit le texte, à la perdition. Il conduit à la mort. Il conduit à la condamnation. Et disons-le tout clair, tout net, finalement, il nous conduit tout droit, où ça? En enfer. Et puis, il y a un autre chemin, donc, un chemin resserré, un petit peu, vous voyez, comme un sentier de randonnée en montagne. Et ce chemin-là, ce chemin resserré, ce chemin étroit, eh bien, nous dit le texte, il conduit à la vie éternelle, c'est-à-dire au ciel. Qu'est-ce que ça signifie? Le chemin spacieux représente l'existence, la vie de ceux qui sont loin de Dieu, de ceux qui vivent sans Dieu et qui ne se préoccupent pas du tout de faire sa volonté. Si donc, dans votre vie, Dieu n'a pas la place qu'il mériterait d'avoir, eh bien, vous êtes sur ce chemin spacieux qui conduit effectivement à la perdition éternelle. Quant au chemin resserré, il représente la vie, l'existence de ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur, de ceux qui sont devenus ses disciples et qui s'efforcent avec sa grâce de vivre une vie qui soit en accord avec la volonté de Dieu, avec ses commandements. Si donc au milieu de nous, il y a des gens qui ont accepté par une démarche personnelle, intérieure, Jésus comme leur sauveur, vous êtes sur ce chemin resserré, ce chemin étroit, mais qui mène, alléluia, à la vie éternelle. Alors, ce qu'il y a d'étrange, c'est que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, plus nombreux sont sur le chemin de la perdition que ceux qui sont sur le chemin de la vie. Pourquoi? Parce que le chemin de la perdition, nous l'avons dit, nous l'avons lu, est spacieux et large, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effort à faire, vous voyez? Il suffit de se laisser aller. Et on peut se livrer au péché sans retenue. L'Écriture parle d'ailleurs de ceux qui sont sans frein dans leur dissolution. Ça, c'est la nature humaine. La nature humaine, notre nature humaine, elle est mauvaise. Vous voyez, il y a parfois des philosophes qui ont dit, je sais bien, que l'homme était bon par nature, mais que malheureusement, c'était la société qui l'avait corrompu. Mais ce raisonnement est ridicule parce que finalement, la société, n'est que la somme de ceux qui la composent. Hein? Et si la société est mauvaise, et c'est vrai qu'elle l'est, c'est parce que chacun de ceux qui composent cette société, vous et moi en l'occurrence, nous sommes par nature mauvais, nous sommes pécheurs. Et notre nature humaine étant mauvaise, c'est plus facile de se laisser aller à faire le mal. Vous avez remarqué ça? Prenez un enfant. On n'a pas besoin de lui apprendre à être violent. C'est vrai ou pas? On n'a pas besoin de lui apprendre à être jaloux. On n'a pas besoin de lui apprendre à être agressif. On n'a pas besoin de lui apprendre à mentir. Ça vient tout seul. Voyez? Ça, c'est la nature humaine. Effectivement, c'est plus facile. Alors, on s'y retrouve plus nombreux là-dedans. Tandis que le chemin de la vie, le chemin qui conduit à la vie éternelle, il exige, il nécessite un certain nombre de renoncements. De renoncements. Et beaucoup estiment que ces renoncements sont trop contraignants, trop exigeants, trop difficiles, et c'est peu. C'est pour ça qu'il y a peu de gens qui acceptent de marcher sur le chemin étroit et resserré. Une illustration de ce que je suis en train de vous dire. Dans la parole de Dieu, il est question d'un jeune homme qui est venu voir Jésus avec une excellente question. Une question d'ailleurs que tout être humain devrait se poser. La question était la suivante: que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est la question essentielle de l'existence. Où passerez-vous l'éternité? Vous voyez, beaucoup de gens ne se posent pas ce genre de questions. Ils sont embarqués dans leurs affaires, leur travail, leur famille, leurs loisirs, leurs vacances, etc., leurs plaisirs. Ils ne se posent pas la question de l'éternité. Mais ce jeune homme, si, oui, lui se posait la question, et il l'a posée à Jésus: que faut-il que je fasse pour recevoir la vie éternelle? Alors, Jésus, nous dit la Bible, a dit: mon ami, observe les commandements. Alors, le jeune homme a posé une autre question: mais lesquels? Et le Seigneur de citer quelques-uns des commandements de la parole de Dieu: tu honoreras ton père et ta mère, tu ne feras de tort à personne, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas adultère, etc., etc. Et ce jeune homme, en toute bonne foi, a dit: ben, tout ça, je l'ai observé. J'ai pas tué, vous non plus, hein, sûrement. J'ai pas volé. Je me suis efforcé de ne pas faire de tort à qui que ce soit. J'ai été respectueux envers mes parents. Et Jésus lui a dit: il te manque encore une chose. Ah bon, laquelle? Eh bien, va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Et si tu fais ça, tu auras un trésor dans le ciel. Et la Bible nous dit que quand ce jeune homme a entendu Jésus lui présenter les conditions, hein, il est devenu tout à coup tout triste. Et sans un mot de commentaire, il a tourné les talons et il est parti. Est-ce que vous croyez que Jésus en avait après son argent? Non, vous savez, Jésus n'est pas un profiteur, ni nous non plus d'ailleurs. Hein. Jésus, simplement, voulait l'amener à renoncer, à se séparer de ce qui le rendait captif du péché. Et son péché à lui, ça n'est peut-être pas le vôtre, peut-être c'est un autre problème qu'il y a dans votre vie. Mais son problème, son péché à lui, c'était la cupidité, c'est-à-dire l'attachement excessif à l'argent, aux choses matérielles, voyez. C'était le centre de sa vie, ça. Remarquez, il y en a beaucoup qui en sont là, n'est-ce pas? Et ce problème de l'argent, cet attachement excessif au bien matériel, constituait pour lui un handicap, un obstacle majeur qui l'empêchait d'être sauvé. C'est pourquoi Jésus, à sa manière parfois un peu rude, c'est vrai, lui a dit: mon ami, il faut que tu règles le problème d'une manière radicale et d'une manière définitive, ce qu'il n'a pas voulu faire. Ainsi, ce garçon Il est resté sur le chemin large et il s'est refusé d'emprunter le chemin resserré, le chemin étroit. Ailleurs, Jésus va avoir encore des paroles extrêmement incisives. Par exemple, il dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Oh, car il vaut mieux entrer manchot dans la vie éternelle que d'avoir les deux mains et d'aller à l'enfer. Il dit, si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le, car il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un pied que les deux et aller à l'enfer. Et il dit même, si ton œil, prends compte, ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie en étant borgne que d'avoir les deux yeux et d'être précipité dans les tourments éternels. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Jésus veut, au sens littéral du terme, que nous procédions à des mutilations sur notre propre corps? Non, certainement pas. Il ne faut pas prendre ça au premier degré. Mais ta main, ton pied, ton œil, qu'est-ce qu'il veut dire, Jésus? Il veut dire que si ce que tu fais avec ta main, si là où tu vas avec ton pied, ou si ce que tu regardes avec ton œil est pour toi une occasion de chute, si cela constitue pour toi une tentation à laquelle tu ne peux pas résister, il faut que tu y renonces. Et il y a des gens qui ne veulent pas ça. Vous voyez ? Ils préfèrent regarder ce qui les intéresse, ce qui les accapare, que de renoncer à ce qui, pour eux, est en fait une occasion de chute. Et ce faisant, ils restent sur le chemin large, spacieux, qui conduit à la condamnation éternelle. Ce sont parfois les relations humaines qui peuvent constituer un obstacle, même les relations familiales, voyez. Jésus disait ceci dans l'évangile de Luc, je le lis pour vous, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Alors, tout autre que le Seigneur se serait réjoui en disant, formidable, mes partisans sont nombreux. Aïe, 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 ils vont tous voter pour moi. Hein. Il y a du monde, ça marche. Mais il est dit que Jésus se retourna et leur dit, écoutez ça, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Jésus savait très bien que ces tas de gens qui le suivaient là, le faisaient, comment il faut dire ça, par goût de sensationnel, voyez. Parce que c'était excitant de voir Jésus à l'œuvre. Hein? Les aveugles voyaient, les infirmes marchaient, les sourds entendaient, les fous retrouvaient la raison, et même parfois les morts ressuscitaient. Alors, il y avait, comme on dit dans mon pays, de l'esbrouf. Il y avait de l'animation, parce que c'était pas habituel, c'était pas coutumier, et les gens étaient friands de voir ces miracles que le Seigneur produisait. Alors c'est pour ça qu'il y avait beaucoup du monde. Mais Jésus savait très bien que pour la plupart de ces gens-là, il n'y avait pas un engagement profond et sérieux. Vous savez, quand Jésus rentrait dans Jérusalem, la foule a chanté « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Quelques jours après, ils ont chanté une autre chanson. Vous savez laquelle ? Crucifie-le. Voilà, ça c'est la versatilité de l'être humain. Et c'est pourquoi Jésus, vous voyez, à cette foule enthousiaste, mais d'un enthousiasme superficiel, Jésus a prononcé des paroles si incisives. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il ne veut pas dire que nous devons haïr nos semblables, et à plus forte raison, nos proches parents, au sens littéral du terme. Mais il veut nous dire que ce qui doit, n'est-ce pas, nous motiver le plus, en ce qui nous concerne, nous croyants, c'est l'amour de Dieu. Et à ce titre, mes amis, rien ni personne ne vous doit pouvoir vous empêcher de faire la volonté de Dieu. Et parfois, il faut faire des choix, et des choix douloureux. Et vous savez, quand on choisit de servir le Seigneur, hein, eh bien, on a parfois à affronter des désaccords, et même une opposition virulente de nos amis, parfois même de notre propre famille, mais cela ne doit pas nous empêcher de suivre le bon chemin. De suivre le bon chemin. Et puisque nous parlons de chemin, tenez, j'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas rester au bord du chemin, en train de regarder les autres passer sur le chemin. Parce que, vous savez, il y a des gens, qui viennent dans nos réunions comme ça, 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans. J'ai connu une dame, je crois, de mémoire, 38 ans. Elle venait aux réunions, mais elle n'était toujours pas convertie, toujours pas engagée envers le Seigneur. Elle était cette femme, et peut-être certains, même sûrement au milieu de nous, sont dans ce cas, assis au bord du chemin. Vous regardez les autres passer. Vous n'êtes pas dans le chemin. Et si vous vous contentez de rester au bord, vous ne serez pas sauvé. Vous savez, un jour, la Bible nous dit qu'il y avait un homme qui était assis au bord du chemin. Il s'appelait Bartimée. Il était aveugle. Et du fait de son infirmité, pour subsister, il était obligé de mendier. Et un jour, assis qu'il était au bord du chemin, il a entendu que sur le chemin, il y avait quelqu'un qui passait. Alors il s'est informé, on lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et cet homme, Bartimée, a rassemblé ses forces, son énergie, et a fait appel au Seigneur en lui disant, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. On a essayé de le faire taire, il a crié plus fort. Voilà un homme décidé. Et Jésus a dit, amenez-le-moi. Et quand l'aveugle a été en présence du Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Seigneur, que je recouvre la vue. Et le miracle s'est produit. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il est dit dans le texte que je cite de mémoire? Après ça, il est dit, Bartimée, l'aveugle, suivit Jésus sur le chemin. Vous voyez, il ne s'est pas contenté de rester au bord du chemin. Mais après avoir obtenu la bénédiction de Dieu, il a marché avec Jésus sur le chemin. Ne restez pas au bord du chemin, mais décidez-vous à vous engager dans le chemin. Parce que vous savez, ceux qui restent au bord, un jour, au jour du jugement, ils auront des comptes à rendre. Hein, parce qu'ils seront plus responsables que les autres qui ne savaient pas. Et le Seigneur leur dira, tu savais, tu as entendu, tu as connu, tu as su, tu as vu ce qu'il fallait faire, tu ne l'as pas fait. Donc ta condamnation est absolument irrémédiable et certaine, il faut suivre Jésus dans le chemin. Il ne s'agit pas non plus de faire, comment il faut dire ça, un bout du chemin. Mais il faut aller jusqu'au bout du chemin. Pas un bout du chemin, mais jusqu'au bout du chemin. La Bible dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Eh oui. Hein, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Dans l'évangile, il est question de certains personnages qui se revendiquaient comme étant des disciples de Jésus. Et un certain jour, la prédication du Seigneur a été particulièrement incisive. Voyez ? Et ces gens-là ont dit « Oh ! Qui peut supporter un tel enseignement? Ces choses sont dures à entendre. » Et la Bible nous dit que ces gens-là, qui pourtant, jusque-là, avaient revendiqué être des disciples de Jésus, il est dit, ils n'allaient plus avec lui. Ils se sont retirés. Ils ont marché en compagnie du Seigneur quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ou bien quelques années, et puis ils se sont retirés en arrière. Et Jésus, ah, ça m'a toujours étonné, ça. Il ne leur a pas couru après. Au contraire, il s'est même tourné vers les 12 apôtres en leur disant, « Et vous, que voulez-vous faire? Ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Et vous savez, il y a eu cette parole admirable de l'apôtre Pierre, qui a dit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voyez, il savait ce qu'il voulait, Pierre. Oh, il n'était pas sans faiblesse, il était bien loin d'être parfait, il avait encore des progrès à faire, des choses à régler dans sa vie, et le Seigneur va l'amener à régler ces choses. Mais il voulait aller jusqu'au bout du chemin. Il voulait persévérer pour être sauvé, pour recevoir la vie. Nous savons, Seigneur, que tu as les paroles de la vie éternelle. Alors c'est pour ça qu'on ne veut surtout pas t'abandonner, on ne veut surtout pas se détourner, mais on veut te suivre et te suivre jusqu'au bout. J'aimerais vous dire aussi que ce chemin qui mène à la vie éternelle, il est unique. Il y a ce proverbe bien connu qui dit que tous les chemins... Ah, vous en savez des choses, vous voyez, on n'a plus rien à vous apprendre. Hein? Tous les chemins mènent à Rome. C'est peut-être vrai sur la terre, parce que la terre est ronde. Alors qu'on parte dans un sens ou dans un autre, on aboutit toujours au même point. Mais pour le ciel, il n'y a qu'un seul chemin. Jésus dira... Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, le seul, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne viendra au Père que par moi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que ça n'est que par la foi en Jésus et en son sacrifice que l'on peut être sauvé. Mes amis, ne faites appel à personne d'autre qu'à la personne de Jésus pour obtenir la bénédiction de Dieu. Il y a eu, c'est vrai, dans l'histoire religieuse, des gens remarquables, des gens éminents. Tenez, eh bien la mère de Jésus, n'est-ce pas ? Qu'il a conçu étant vierge, qu'il a conçu par la vertu du Saint-Esprit. C'était une jeune fille remarquable, avec beaucoup de qualités, et nous les lui reconnaissons, et la parole de Dieu les lui décerne. Mais jamais dans les Écritures, nous ne voyons qui que ce soit lui adresser la moindre prière. Pourquoi ? Parce que Jésus est Jésus seul, et le chemin, la vérité et la vie, que son nom soit béni, c'est Jésus. Et personne d'autre qui a donné sa vie en sacrifice sur la croix du calvaire, pour que par son sacrifice, vos péchés et les miens puissent être pardonnés et que nous recevions la grâce de Dieu. Alors, cet après-midi, vous voyez, je ne vais pas prolonger bien longtemps cette intervention. J'ai envie de vous poser cette question. Et vous êtes seul habilité à pouvoir y répondre. Sur quel chemin êtes-vous ? Ah. Sur quel chemin êtes-vous ? Vous êtes forcément sur l'un ou sur l'autre. On peut pas être assis entre deux chaises. On peut pas être sur la ligne médiane. Hein ? Je sais que nos amis suisses sont neutres, mais en ce qui concerne les choses du royaume de Dieu, mes amis, il n'y a pas de neutralité. On est d'un côté ou de l'autre. On est soit sur le chemin qui mène à la vie, le chemin resserré, le chemin étroit, à la vie éternelle, soit sur le chemin large, spacieux, qui mène à la perdition. Il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas d'autre possibilité que ces deux-là. Alors, sur quel chemin êtes-vous ? Ça mérite que l'on se pose la question et que l'on puisse y répondre. Parce que quand on s'est trompé de chemin, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est simple. Il faut en changer, non ? Hein ? Si tu es sur le mauvais chemin, il faut prendre le bon. C'est comme ça qu'on fait quand on conduit un véhicule, non ? Ça vous est jamais arrivé en voiture de... Ah, je me suis trompé, tiens, je suis dans la mauvaise direction. Eh bien, à la première occasion, on fait demi-tour et on s'efforce de prendre la bonne route. Il n'y a que les insensés qui s'enferrent un peu plus, qui vont jusqu'au bout de leur égarement. Bien dans le domaine spirituel, c'est pareil. Quand on réalise, quand on prend conscience qu'on est sur le mauvais chemin, il faut en changer et il faut prendre le bon. Vous savez, dans la Bible, il y a un homme, il s'appelait Balaam. Ah, Balaam, il a vécu une aventure peu commune. Hein. Un jour, alors qu'il était sur son bourricot, là, hein, sur son ânesse, un ange s'est mis en travers du chemin. Il lui a dit, Balaam, c'est un chemin de perdition qui est devant moi. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous ? Mes amis, si un ange m'apparaissait et me disait quelque chose de semblable, dard, je filerais de l'autre côté. Un chemin de perdition. Un ange, il l'a vu, l'ange, il n'a pas rêvé. D'ailleurs, l'ânesse l'a vu avant lui. Eh bien non, Balaam, ce sot, cet insensé, Balaam fou que tu as été, il n'a pas tenu compte de l'avertissement solennel de l'ange de Dieu, mais il a persisté dans sa mauvaise voie, dans la mauvaise direction dans laquelle il était embarqué. Et finalement, vous savez quoi ? Il l'a payé de sa vie. Parce qu'on sème, on récolte toujours ce que l'on a semé. Voilà. Alors ne faites pas comme Balaam. Si la parole de Dieu touche votre cœur ce soir, et je veux prier, et nous prions pour qu'il en soit ainsi, et que vous vous aperceviez, vous réalisez, vous prenez conscience que vous êtes sur le chemin de la perdition, ne dites pas « Oh, on verra plus tard !» Arrêtez-vous ! Stop ! Faites demi-tour. Et prenez le bon chemin. Dites « Jésus, je viens à toi. » Avec mon égarement d'esprit, avec mon péché, avec ma nature humaine qui est désespérément mauvaise, pardonne-moi, sauve-moi. Place-moi sur ton bon chemin, même si ce n'est pas facile, je veux te suivre. Même s'il y a un certain nombre de choses auxquelles je dois renoncer, un certain nombre d'affaires que je dois régler dans mon existence, je veux te suivre fidèlement et jusqu'au bout, afin de recevoir un jour en héritage la vie éternelle. Alléluia, alléluia. Ne craignez pas, parce que c'est vrai, on pourrait dire, mais justement... Vous savez, le chemin, vous dites, il est étroit, il est resserré. Et moi, ça m'inquiète quand même. Ce chemin resserré, je ne suis pas sûr de savoir, je ne suis pas sûr de pouvoir y marcher. Vous savez, la bonne nouvelle, c'est ce que, sur ce bon chemin, on n'est pas seul. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Parce que Jésus a dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Et je peux vous garantir, ça fait quelques décennies maintenant, que c'est vrai. Le Seigneur est avec nous quand on a pris le bon chemin. Oh, ça ne veut pas dire que ce sera toujours facile, toujours rose, toujours merveilleux. Non, non. Mais même dans les jours sombres de notre existence, dans les moments difficiles, dans les moments douloureux, dans les moments d'épreuve, eh bien, il est toujours là. Gloire à Dieu. Et il y aura toujours, et je l'ai vécu, et je le vis encore, un moment où sa bonne présence vient nous rassurer et nous consoler, que son nom soit béni. Et je vais vous dire autre chose encore. Même s'il y a un faux pas, parce que des fois, même ceux qui sont sur le bon chemin, boum, ils trébuchent. Et des fois, ils se retrouvent le nez dans la poussière. Même alors, le Seigneur ne nous laisse pas tomber. Le Seigneur ne nous laisse pas tomber. Écoutez ce qui est écrit dans un psaume. J'aime beaucoup ce verset. L'Éternel affermit les pas de l'homme. Les pas de la femme aussi. L'Éternel affermit les pas de l'homme. Et il prend plaisir à son chemin. Vois sa voix. S'il tombe, voyez, voilà le faux pas. S'il tombe moralement, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. C'est pas beau ça? S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Pourquoi faire? Pour le relever. Voyez? Quand dans notre vie de chrétien, on est sur le bon chemin, mais voilà, on a commis une erreur. Ah, on n'aurait pas dû, il n'aurait pas fallu, mais c'est arrivé parce qu'on est encore des êtres humains. Eh bien, le Seigneur ne nous dit pas, allez, t'es un minard, t'es un zéro, dégage, tu ne m'intéresses plus, c'est fini pour toi. Non. Non. Il nous accorde une autre chance. Il nous tend la main, une main secourable. Et il nous relève. Il suffit qu'on lui dise, Seigneur, tu vois, encore une fois, j'ai commis une nouvelle erreur, une nouvelle faute, un nouveau péché. Pardonne-moi. Aide-moi à reprendre courage, à reprendre ma course en avant. Et le Seigneur le fait, gloire à Dieu. Il nous tend la main et il nous remet en piste. Alors, cet après-midi, je vous en prie, je ne sais plus quoi vous dire, moi. Hein. J'ai tout dit, là. J'ai essayé tout au moins, mais je voudrais tellement que vous puissiez vous décider à prendre enfin le bon chemin. Même si c'est un chemin resserré, souvenez-vous qu'il conduit, où ça ? À la vie éternelle. Hein ? Un jour, on arrivera au terme du voyage, gloire à Dieu. Hein, après un long parcours, peut-être sinueux, vous voyez, on arrivera au bout, on dira, enfin, Seigneur, voilà, j'entre avec toi dans le royaume des cieux où tu m'as précédé, où tu m'as préparé une place. Je vivrai en ta compagnie pour l'éternité tout entière, dans un bonheur parfait et dans un bonheur sans fin. Ça vaut quand même la peine. Et on se dira alors, eh bien, j'ai vraiment pas à regretter d'avoir pris le chemin resserré parce qu'il m'a conduit à la vie éternelle. Que le nom du Seigneur soit béni. Recueillons-nous quelques instants, s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes...